Chapitre 34. Malgré les conseils, les prières, les adjurations d'Arly, Roger ne partit point. Rien ne fut changé à ses habitudes. On continua à le voir à toutes les premières représentations, dans toutes les réunions, à toutes les courses de la saison, aimable et souriant, accompagnant partout Madame d'Arverne, dont le visage pâle et le regard violent contrastaient d'une façon bizarre avec les yeux alanguis et les joues rosées de son amant. Puis, tout à coup, un jour, on ne le vit plus nulle part, et quand, en apercevant Madame d'Arverne seule, on s'inquiéta de lui et de savoir où il était, s'ils avaient rompu, on apprit qu'il était malade d'une fluxion de poitrine. Ah, vraiment, Dieu était juste d'apporter à M. de Condrieu cette réparation au moment même où le procès intenté par le duc de Condrieu est sur le point d'être enfin jugé, menacé de leur enlever ce nom de Condrieu. Comme elle serait adoucie, la douleur de perdre ce procès, si, auparavant, Ludovic recueillait le titre de duc de Naurouze. Il est vrai que lui-même ne serait ni duc ni Naurouze, coudrier seulement, ce qui serait bien dur et bien humiliant à son âge et dans sa position. Mais il se consolerait dans la gloire de Ludovic. Dans sa longue existence, ce n'avait pas été pour lui qu'il avait travaillé, combiné des plans compliqués et poursuivi leur exécution à travers les dangers et les fatigues de toutes sortes, ça avait été pour la fortune de sa maison, celle de son fils d'abord, celle de son petit-fils ensuite, et ce serait se montrer ingrat envers la Providence que de se plaindre à l'heure où Ludovic allait enfin recueillir le fruit de combinaisons que, pendant près de 50 années, il n'avait pas abandonnées un seul jour. Le marquis de Varages était mort comme il l'avait calculé et voulu, puis le duc et la duchesse de Naurouze étaient morts aussi, et maintenant c'était Roger qui allait mourir à son tour. Ah, comme il avait été sage de ne jamais désespérer! Et comme il est bien vrai que le succès appartient aux patients. Deux fois par jour, le matin et le soir, il avait été lui-même prendre des nouvelles de Roger, non auprès de Bernard comme il l'aurait désiré, mais auprès du concierge, de sorte qu'en combinant ce que lui rapportait celui-ci avec les bulletins officiels que Mautravers lui envoyait, il suivait pas à pas la marche de la maladie. Pendant les premiers jours, ceux qui l'approchèrent remarquèrent dans toute sa personne les marques d'une profonde affliction. Les choses allaient bien pour lui et par conséquent mal pour Roger. Les râles occupaient une surface de plus en plus large, disait Mautravers, et la fièvre augmentait tandis que les forces diminuaient. Bien certainement il allait mourir, c'était donc le moment de se tenir sur ses gardes et de ne pas montrer de joie. Puis, vers le sixième jour, on avait remarqué qu'un vague sourire demeurait constamment sur son visage. Les choses allaient mal pour lui, c'est-à-dire bien pour Roger. Les râles diminuaient, le pouls s'abaissait, les forces se relevaient. C'était le moment de ne pas montrer le désespoir causé par cette nouvelle. Assez rapidement, le mieux s'était accentué et la période de la convalescence avait commencé. Comment, une fois encore, Roger allait guérir et se rétablir? Était-ce possible? Sans doute, en envisageant les choses froidement, on devait reconnaître que cette fluxion de poitrine aggravait singulièrement l'état de Roger, mais enfin, ce n'était pas la mort. Il y a des poitrinaires qui, de pneumonie en pneumonie, de bronchite en bronchite, traînent pendant longtemps, très longtemps. Bien soigné, Roger pouvait se rétablir. Il le pouvait surtout si, se décidant à quitter Paris qui le tuait, il allait, comme ses médecins le voulaient, passer quelques mois dans le Midi. Quelques mois, puis, après cela, d'autres encore sans doute. Monsieur de Condrieu-Revel ne pouvait pas attendre ainsi et permettre par son inaction criminelle une série de rechutes et de rétablissements qui dévoraient le temps. De temps, il n'en avait pas à donner. Car, tandis que le temps marcherait pour Roger, il marcherait aussi pour le procès du duc de Condrieu, et le jugement pouvait être rendu avant que Roger fût mort. Quel serait ce jugement? Monsieur de Condrieu-Revel avait de grandes craintes. Les chances étaient contre lui, et si le jugement lui était contraire, la situation de Ludovic se trouverait gravement compromise. vicomte de Condrieu-Revel, Ludovic pouvait espérer hériter du titre et du nom de Roger, tandis que, s'il n'était plus que Coudrier, ce titre et ce nom lui échapperaient probablement. Ce qu'il importait donc avant tout, maintenant, c'était que Roger ne quittât point Paris et ne rompît point avec les habitudes qu'il avait mises au point où il était arrivé et qui, continuaient, l'achèveraient. Il vint trouver M. d'Arverne. « C'est de mon petit-fils, dit-il, de mon cher petit-fils que je voudrais vous entretenir. »« Comment va-t-il aujourd'hui ?»« Il est bien faible, mais j'espère que je vais pouvoir, sinon le guérir, cela ne dépend pas de moi, hélas, au moins aider sa guérison. » En ces derniers temps, j'ai eu le chagrin de me trouver en opposition avec votre Excellence, chagrin bien vif, bien cruel. Avec sa jeunesse de caractère, votre Excellence avait pris parti pour mon petit-fils, c'est-à-dire pour la levée du conseil judiciaire, et moi, avec ma vieillesse chagrine, je persistais à croire utile le maintien de ce conseil. Votre Excellence m'a fait une rude guerre, et cependant, peut-être, m'aurait-il été possible de la continuer encore, si cette maladie n'était pas venue changer mes dispositions. Que voulais-je ? Je l'avoue tout franchement, car je suis un homme sans détour. Je voulais retarder le plus possible le jugement de cette affaire, de peur que ce jugement, s'inspirât de l'avis de votre Excellence, ne levât le conseil, et cela non par vaine opposition, mais parce que je pensais que du temps gagné par moi, c'était de la sagesse gagnée par mon petit-fils, de sorte que plus la main levée du conseil arriverait tard, moins elle serait dangereuse. Aujourd'hui, la maladie a changé ses dispositions. Je sais que mon pauvre petit-fils souffre beaucoup d'avoir à subir ce conseil. Je sais aussi qu'il n'attend que d'en être dégagé pour quitter Paris qui le tue, car c'est la vie de Paris qui le tue. Oui, monsieur le duc, c'est la vie de Paris. Enfin, je sais encore que, dans l'état de faiblesse où il se trouve, il ne subira plus ses entraînements, ses ardeurs dévorantes qui lui ont fait commettre tant de folies. Aussi, je rends les armes. Je vais unir mes efforts aux vôtres pour que ce procès soit jugé le plus vite possible, de façon à ce que mon pauvre, mon cher petit-fils, débarrassé de son conseil, puisse quitter Paris et n'y revenir que lorsqu'il aura recouvré la santé. Cela fut dit avec tant de bonhomie, tant d'émotion, que M. d'Arverne ne put pas en soupçonner la sincérité. Il avait été touché, le vieux comte. Ou bien, voyant que ses efforts seraient désormais inutiles, il voulait tirer parti de sa soumission forcée, de manière à amener un rapprochement entre lui et son petit-fils, et finalement, un testament en faveur de Ludovic de Condrieu. Il n'y avait donc plus rien à faire. Le jugement serait bientôt rendu, le conseil judiciaire serait levé, et le duc de Naurouze quitterait Paris. Pour M. de Condrieu-Revel, c'était un grand point d'avoir obtenu l'inaction du duc d'Arverne. Maintenant, il allait pouvoir manœuvrer pour retarder ce jugement qu'il paraîtrait demander. Et si, malgré tout, ce jugement était rendu, s'il levait le conseil judiciaire, on le ferait frapper d'appel par le conseil de famille.